Le débat.
Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Algérie Internationale pour un nouveau numéro de votre émission Le débat. Le débat revient aujourd'hui sur le nouveau code du travail, les nouveaux articles de ce code et le plus qu'il apportera à l'entreprise. De nouvelles dispositions donc pour actualiser et adopter la législation du travail aux mutations socio-économiques. Nos invités aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Ahmed Merchichi, sous-directeur au ministère du Travail. M. Merchichi, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de nous avoir invités à cette émission.
Et pour représenter l'UGTA, M. Amar Takjout. M. Takjout, merci d'être avec nous aujourd'hui.
C'est à moi de vous remercier.
Merci beaucoup. Donc, je le disais à l'instant, donc, nous allons revenir sur donc, le nouveau code du travail ou les nouvelles dispositions qui sont aujourd'hui proposées pour améliorer le monde de l'emploi en Algérie et bien sûr développer l'entreprise en général. Donc, d'abord, pour commencer, je commencerai avec vous, M. Melchichi. Donc, des nouveautés aujourd'hui pour l'emploi, pour le travail, pour les relations de travail notamment. Donc, M. Melchichi, en général, est-ce que... on peut avoir une petite idée sur ce nouveau code du travail.
Voilà, merci de moi de le redire de l'invitation et vous me permettez de rappeler un peu les étapes qu'a connues l'élaboration du nouveau de l'avant-projet du code du travail. Il faut rappeler qu'il est à la faveur de la tripartite qui a été tenue en 2005. Dans laquelle les partenaires économiques et sociaux dans l'UGTA et les organisations patronales ont convenu avec le gouvernement de l'élaboration d'un code du travail. Des groupes de travail tripartite ont été installés et ils ont travaillé pour aboutir à un avant-projet de code du travail. Donc sur le plan de la forme, c'est quoi le code au sens juridique du terme. Donc le code du travail ou l'avant-projet de ce code du travail contient l'ensemble des textes législatifs en vigueur, notamment les lois sociales de 90, amendées en 1991 et en 1996. Il y a eu des modifications qui ont été apportées à ces lois sociales. Donc, le besoin, après pratiquement une décennie, ou plus d'une décennie, du dernier amendement de ces lois sociales, le besoin se fait, ressentir par les intervenants ou les praticiens du droit, pour l'enrichissement et l'adaptation de la législation du travail au contexte économique et social du pays. Voilà. Donc le code contient pratiquement l'ensemble de la législation en vigueur du travail.
Donc,
si vous me permettez de terminer mon idée. Cet avant-projet du code du travail, pour qu'il il doit s'adapter aux impératifs qui sont les impératifs économiques et sociaux qui sont nés de l'évolution ou de la pratique de l'activité économique des entreprises algériennes. Quels sont les fondements de ce code du travail? Donc, et la nécessité lors de l'élaboration de cet avant-projet du code du travail d'assembler l'ensemble des lois en vigueur. Ils sont répartis en titres, en livres. Il y a 8 livres. Il y a 8 livres en total dans cet avant-projet du Code du travail. Le fondement, c'est c'est les mêmes fondements en matière de droit et liberté reconnus aux acteurs des relations de travail, c'est-à-dire les travailleurs, et aussi les fondements nés des conventions internationales de l'OIT qui garantissent qui garantissent les droits et libertés reconnus aux travailleurs. Donc c'est l'ensemble de ces droits et libertés qui sont reproduits dans ce code, dans cet avant-projet du code du travail.
Mmh. Voilà. Très bien. Donc on va revenir tout à l'heure justement sur les points les plus importants qui caractérisent ce nouveau code du travail, avec bien sûr en soulignant les objectifs. Monsieur Tagjout, en parlant justement de relations de travail aujourd'hui, si l'on pouvait faire un petit tableau par rapport à ce qui se fait sur le terrain entre employeurs et travailleurs, comment justement aujourd'hui évaluer cette relation et ces rapports dans les entreprises.
Enfin, si je dois répondre directement à la question, c'est que les rapports aujourd'hui, enfin, entre employeurs et employés, ça dépend. C'est pas linéaire, c'est pas identique entre l'entreprise publique et l'entreprise privée. L'entreprise privée, elle est dépourvue d'organisation syndicale pour la plupart, rare où des entreprises sont dotées d'un syndicat donc où le dialogue social est instauré. Dans l'entreprise publique, il y a des pratiques qui existent depuis maintenant longtemps, mais est-ce que ces pratiques semblent cadrées avec la réalité d'aujourd'hui? Je dirais encore, elle est insuffisante, qu'il faut revoir un petit peu les relations de travail entre employeurs et employés dans les secteurs industriels. Ça, c'est, si je dois faire une question, il faut réadapter un petit peu ces rapports, ces relations. Il faut avoir à l'esprit l'entreprise, la vie de l'entreprise, la fluctuation de l'entreprise, parce que l'économie est à géométrie variable, donc elle n'est pas linéaire aussi. Donc, est-ce que on arrive tout de même à comprendre un petit peu ces courbes ascendantes et des courbes descendantes? Je pense que ce n'est pas très très ancré dans l'esprit de nos partenaires. Pourquoi? Parce qu'on a vécu l'entreprise publique, c'est l'État, c'est la subvention, c'est l'intervention, etc. Aujourd'hui, il faut que l'entreprise crée de la richesse, elle crée sa propre plus-value. Et cette plus-value, elle est discutée entre partenaires quand il faut la partager. Il faut aussi avoir à l'esprit quand l'entreprise elle est mise à mal par une conjoncture économique, par un environnement économique, aussi d'engager des discussions, des débats autour de cette situation, comment aider l'entreprise, comment accompagner sa situation de crise. Donc, dans les deux, on sait peut-être partager aujourd'hui la rente, on sait peut-être exiger, de demander, de donner, mais on a le sentiment d'occulter un petit peu les problèmes de l'entreprise quand elle va mal. On ne sait pas engager cette discussion entre partenaires. Donc il va falloir peut-être axer beaucoup plus d'efforts autour de la relation, du dialogue social entre partenaires, et encore faire comprendre que par la formation, par la persévérance aussi de la discussion et du débat, que il faut arriver à aboutir à ce dialogue quand l'entreprise va mal. Il y a un élément qui me frappe dans l'évolution du code du travail, pour ne pas dire autre chose, ça veut dire que c'est bien de penser, de réfléchir à faire des changements. Et j'ai écouté à plusieurs reprises des responsables dire que c'est pour, enfin, au milieu patronal, il faut, ce code, s'il vient aujourd'hui avec ces modifications, c'est pour gagner la bataille de la productivité. Et j'ai écouté aussi, pas l'actuel ministre, j'ai pas eu l'occasion de l'écouter, mais l'ancien, son prédécesseur, je l'ai écouté à la radio, il disait que la dépermanisation ou le contrat à durée déterminée, c'est quelque chose qui est utilisé de par le monde, dans les entreprises, etc. C'est tout le monde qui le fait pour gagner la bataille de productivité. On revient un petit peu à la bataille de la productivité. Moi, je pense que avant de parler de la bataille de productivité, il faut créer une économie productive. Ce qui me frappe le plus, c'est que on est à 5, l'un de notre industrie, elle est à 5% depuis très très longtemps, à 5% du PIB, donc du produit intérieur brut. Donc on n'évolue pas. Donc nous avons une industrie en berne, donc qui tourne autour de 5 depuis des années. Ça veut dire qu'on a bon à dire, on peut faire des schémas d'organisation, des schémas d'intervention, etc. Nous sommes à 5. Nous avons une agriculture qui n'est pas aussi forte qu'on le pense, parce que beaucoup disent qu'elle est, elle évolue, oui, certes, mais elle est insuffisante. Donc elle aussi, elle peut jouer un rôle dans la création, dans la transformation, dans l'industrie de la transformation. Donc nous n'avons pas une économie très forte, donc on est un petit peu lié uniquement à la rente pétrolière. Tout le monde est lié à la rente pétrolière. Donc ce qui m'a frappé le plus, c'est de dire qui a été à l'origine de ce mot productivité. Est-ce qu'un patronat qui n'existe pas, bah, il existe sur papier certes, mais en termes de volume de production, il n'existe pas. Moi je ne parle pas de, j'ai beaucoup de respect pour nos amis du patronat, j'ai parmi eux des amis, mais je veux dire, en termes de volume de production, il n'existe pas. Alors comment on parle de changement et de dire que aujourd'hui la nécessité de la dépermanisation du contrat du RDTM, etc., dans les pays qui sont avancés, c'est dû aussi à une discussion et à une volonté et aussi à une demande de leur économie. Ça veut dire que quand vous êtes en perte de productivité, vous perdez votre marché intérieur et vous perdez votre marché extérieur. Donc vous cherchez à remettre de l'ordre dans votre économie, quitte à niveler par le bas, à enlever aux salariés et aller récupérer vos parts de marché. Ce n'est pas notre cas. Nous exportons moins de 2 milliards de dollars. Et nous avons une industrie qui n'est pas très forte, nous avons une agriculture qui n'est pas très forte, et ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est qu'on annonce pour 2015 15% d'augmentation de l'importation par rapport à 2014. Alors si on a importé 64 milliards de nos besoins en 2014, nous allons encore augmenter de 15%, donc je ne vois pas l'utilité aujourd'hui de ce débat, qui risque d'être un débat stérile qui ne porte pas. Voilà.
Donc, Monsieur Takjout donc, est revenu au début de sa réponse sur le dialogue social, d'où justement ce code doit s'inspirer des propositions des autres partenaires. Aujourd'hui, Monsieur Takjout a posé la question, est-ce que justement, moi je vous pose la question, Monsieur Melchichi, le code du travail aujourd'hui, certes, il est important de revoir les lacunes, les défaillances, de proposer et d'essayer de faire des tentatives pour améliorer la situation, les rapports et les relations de travail. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure d'objectifs, justement l'objectif principal de ces nouvelles propositions.
Merci. Je crois qu'il y a plus de deux, mais je vais juste citer deux objectifs du Code du travail. Premièrement, c'est de rassembler l'ensemble du texte législatif en un seul document qui va permettre la facilité de la facilité et du gain du temps pour les utilisateurs, les praticiens du droit du travail, les juges, les étudiants, les chercheurs. Donc c'est un objectif. Le deuxième objectif, c'est de répondre à des situations nouvelles qui ont été générées par le mouvement de la société et de l'économie nationale. Elles se concrétisent ou se matérialisent à travers certaines dispositions du nouveau code du travail. Parmi ces nouveautés, c'est pas tout à fait une nouveauté, elles existaient déjà dans les lois en vigueur, le contrat de travail à durée déterminée. Il y a des cas qui reflètent des situations particulières qui permet à l'entreprise de recruter, d'embaucher par rapport à un contrat de travail limité dans le temps. C'est-à-dire il y a des situations, des cas qui sont encadrés. Ils sont soumis à des contrôles rigoureux de l'inspection du travail et même du juge. C'est-à-dire on ne peut pas recruter dans le cadre de ce contrat du travail à durée déterminée s'il ne répond pas à une norme bien précise relative à la situation de l'activité économique. On peut citer par exemple quelques exemples qui existent déjà. Le surcroît de l'activité d'entreprise. Dans ce cas-là, l'employeur peut recourir, par exemple, à un contrat de travail. Le remplacement d'un travailleur qui est au sens de la loi peut s'absenter s'il est en cas de maladie. Et l'entreprise a besoin que son activité, son poste de travail soit en continu dans l'activité. Donc,
c'est pour répondre aux besoins de l'entreprise. Aux besoins selon de l'entreprise. Des cas.
Bon, dans le projet Code du travail, il y a deux cas, de nouveaux cas qui permettent à l'entreprise de recourir à ce type de contrat de travail. C'est en cas de, je vais citer d'exemple, le cas d'une urgence, un accident imminent, une urgence. Donc, ça donne à l'entreprise de recourir à ce type de contrat de travail pour faire face à une situation bien précise, elle est limitée dans le temps. Elle ne peut pas être en continu. Non, c'est limité, et comme je l'ai dit, il est encadré et soumis à un contrôle très rigoureux de l'inspection du travail. Lors des amendements de 96, lui a conféré cette prérogative du contrôle du CDD, plus le juge.
Monsieur Machichi, puisque vous parlez justement de contrôle de CDD, est-ce que justement le nouveau code prévoit quelque chose par rapport au nombre de contrats à durée déterminée?
Effectivement, le nombre de contrats pour le CDD.
Je dirais que c'est principal souci des travailleurs qui travaillent.
C'est trois renouvellements successifs. Ce qui est, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plus de trois renouvellements successifs. Ce que prévoit l'avant-projet. Je dis bien que c'est un avant-projet du Code du travail. Je rappelle qu'il a été transmis aux partenaires sociaux et économiques. Bon, le partenaire social, c'est le JTA. Et on est en attente de leur proposition par rapport à ce projet du Code du travail.
Très bien. Donc, M. Tagjout, justement, la question est posée à chaque fois au niveau du monde du travail, des employés, par rapport au nombre de contrats de travail, les CD. Donc, au bout de trois contrats, donc c'est le maximum, mais à la fin du troisième contrat, l'avenir de ces travailleurs.
D'ailleurs, c'est de là que la réaction syndicale, elle reste légitime, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur ces questions de trois renouvellements successifs. Premièrement, il se trouve qu'aujourd'hui, le code actuel permet le CDD. Et souvent, moi j'ai vu dans mon secteur, j'ai suivi, où des employeurs ont pratiquement dérapé en utilisant le contrat pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et mon ami est en train de rappeler qu'il y a par la suite l'inspection, etc. Mais l'inspection travaille aujourd'hui et se trouve vulnérable. Elle n'a pas réussi à imposer aujourd'hui ce qui existe comme règle de dire, écoutez, on ne peut pas utiliser le contrat pendant 10 ans. Si c'est un poste permanent, c'est un poste permanent. Donc, il y a un problème aujourd'hui. L'identification, comme il le disait, sur les postes de travail qui nécessitent des contrats partiels, des contrats à durée déterminée, ça peut être dans l'agriculture, ça peut être aussi dans le BTPH, ça peut être parce que tout dépend du chantier, tout dépend d'une activité. On peut aller jusqu'à une année ou deux de travail, par la suite, le chantier se termine, l'activité, elle se termine. Bien. Ça, c'est ce qu'on appelle des activités spécifiques connues. Mais dans les entreprises, dans les administrations, dans l'entreprise industrielle, qui a une vie, une durée de vie, parce que quand on vit dans une entreprise, on peut vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans. Alors, quand on est un salarié mobile, on peut changer à n'importe quel moment, c'est le droit du salarié. Et quand on a envie de faire une carrière ou d'être fidèle à l'entreprise, on peut rester 15 ans ou 20 ans ou 10 ans. Bien. Moi, j'ai la facilité, j'ai déduit une chose de ce code du travail, notamment dans le CDD, c'est beaucoup plus faciliter un petit peu le licenciement des travailleurs. Et ça, c'est pas juste. Parce que le permanent n'a jamais été à l'abri d'un licenciement. Il peut être licencié pour indiscipline, comme il peut pour insuffisance. Il peut être licencié aussi dans un cadre économique. Simplement, c'est coûteux pour l'entreprise souvent. Quand on arrive à la justice et on qualifie d'abusif, donc l'entreprise est obligée de payer. Mmh, et quand il s'agit d'un licenciement économique, elle est obligée aussi de payer. Donc, est-ce qu'on veut éviter à travers cet article et cette généralisation pratiquement, parce que les zones d'ombre, ce n'est pas encore clarifié, est-ce qu'on veut simplement faire un cadeau aux employeurs de dire, écoutez, vous pouvez licencier et vous n'avez pas d'indemnité à payer? Bien, c'est une question. Deuxième question qui nous est posée, et au milieu syndical, et on trouve une aberration, c'est celui du contrat. Le contrat actuel, quand il a un contrat d'une année, il paye des cotisations à la caisse de chômage. La deuxième année, s'il a 3 mois ou 4 mois, il va payer aussi à la caisse de chômage. Et la troisième année, on lui fait un contrat de 2 ou 3 mois et on lui dit, écoutez, ça y est, on ne vous renouvelle pas. Ce gars-là va partir, ou cette personne va partir à la maison. Donc, elle est dépourvue de toute ressource. Non seulement il a payé pendant les 18 mois ou 20 mois qu'il a travaillé en contrat à la caisse de chômage, mais il n'a pas le droit d'accéder à cette caisse. Ça veut dire qu'elle ne peut pas le prendre en charge. Donc, les outils actuels exigent de l'entreprise de payer. Il y a un coût pour accéder plutôt, là, pour avoir le droit d'entrée à la caisse de chômage, le salarié, pour avoir ce droit d'entrée. De s'inscrire au chômage, l'employeur doit payer. Il doit payer une somme assez importante et souvent, les employeurs préfèrent payer des indemnités de départ que de payer la caisse, la CNAC. Pourquoi ? Parce que ça leur coûte énormément cher. Donc, tout est lié un petit peu à l'entreprise et au coût que l'entreprise doit payer. Est-ce qu'on est en train de permettre aux employeurs, aux futurs employeurs, de faire des plus-values sur le dos des travailleurs? Le syndicat, nous, on n'est pas d'accord sur ces méthodes et on ne peut pas se suiter. Il y a un autre élément aussi qui nous est posé en tant que syndicat et qui nous posait sérieusement. Celui de la syndicalisation. Tout le monde sait que les salariés contractuels ne peuvent pas se syndiquer parce qu'ils ont une activité très limitée. Ils peuvent être on met fin à leur contrat. Donc, ces salariés risquent de ne pas se retrouver organisés. Ils n'auront jamais cette possibilité d'avoir accès à l'organisation organisation syndicale. Troisième élément, si ça vient à généraliser ce qui est notre crainte, c'est qu'on remet en cause, en quelque sorte, l'existence même du syndicat. Donc c'est déjà. Et quand on généralise le contrat et on remet en cause le sens de la négociation, puisque si les syndicats n'existeront pas, la négociation n'y aura pas, donc on est soumis en quelque sorte à des rapports entre employeurs et employés, et ça existe, ça a existé dans l'histoire bien avant la naissance des syndicats.